Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.
Par jour.
Bah je te disais ça pour te faire marronner. Il est très bien ton dessin. Je me souviens plus de ces grangiers.
Il fait nuit. Le train file. On voit que se plaquent sur les vitres les gouttes d'eau. Il pleut même abondamment. On sent dans le compartiment éclairé d'une lumière jaune une odeur d'humidité, de cigarettes et de cuir. Cette odeur donne envie de vomir à Benoît, un jeune homme de 22 ans, grand, mince, cheveux châtains, visage distingué, un peu sec. Il est fatigué. Cela fait des heures qu'il est enfermé dans ce compartiment. Le voyage est long. Sans manger ni boire. Les voyageurs, l'air triste, sont assis à côté et en face de lui. Benoît n'a qu'une envie, c'est d'arriver de se coucher. Il est si fatigué. Enfin, le train est arrivé en gare de Lyon-Perrache. Une fois que le train est arrêté, il a suivi les voyageurs pour descendre du train. Un vent froid et humide le surprend. Il y a foule sur les quais, la fumée des locomotives, les haut-parleurs qui donnent leurs informations. Vite, Il réussit à se faufiler pour sortir de la gare. Il n'aime ni la foule, ni fait partie d'un groupe. La cohue se fera sans lui. Une fois sorti de la gare, malgré sa fatigue, il décide de rentrer à pied. Il est 21h, les rues sont presque désertes. La ville est sombre, triste. Elle ne semble pas avoir changé malgré toutes ces années, à part quelques ruines par-ci par-là. Il se dirige vers le quartier Saint-Jean, quartier encore plus vieux, plus sombre que les autres. Malgré tout ce qu'il a connu durant toutes ces années, cela lui donne le cafard de retrouver sa rue sinistre, sale, avec ses maisons lépreuses. Voilà l'immeuble où habitent ses parents et la boutique mercerie de son père fermée par des volets de bois. Il se dirige pour entrer dans l'allée. L'allée est étroite, un couloir sombre qui mène à des escaliers de pierre usés et nus. Benoît se dit que ça sent la même odeur, odeur d'humidité. Monte au premier étage, l'immeuble n'en a que trois. Sur le petit palier, il y a une ouverture sans fenêtre et une porte. Il a sonné à la porte. La porte s'est ouverte. Une vieille femme à cheveux blancs, à chignons, toute maigre, habillée de noir. Elle regarde fixement Benoît. Benoît lui dit « Bonjour, tante Clara. »«
Oh, mais c'est toi. Entre !»
Une fois rentré, il se penche pour embrasser la vieille.
Mais que tu es vieille, tu n'as pas vu ton père? Il est allé te chercher.
Non, je suis partie de suite. Elle le regarde bien, lui dit.
Tu es maigre et grand. Tu as changé, mon petit.
Il lui dit, c'était dur toutes ces années.
J'ai faim et j'aimerais me coucher. Le trajet a été long. Oui, bien sûr. Viens, allons à la salle à manger.
Il se dit, pas à la cuisine, comme un invité. Elle a ouvert une petite porte vitrée du couloir. Il entre. Le plafonnier a une lampe qui donne une lumière faible et jaune. La salle à manger, au plafond haut, est de taille moyenne, rectangulaire, avec une fenêtre sur la rue. Les meubles sont du faux Henri III, 1930. La table est recouverte d'une toile cirée, beige, avec des dessins représentant des motifs arabes, genre vu par les Européens.
Assieds-toi, mon grand, je vais te servir.
Benoît va s'asseoir. Et elle sort de la pièce. Et revient avec un couvert qu'elle va déposer près de lui. encore les restrictions ici. Et pour ton arrivée, j'ai réussi à te trouver des choux et du lard. Je crois que ça doit être bon. Tu ne manges pas ?
Oui, ce sera sûrement très bon. Et toi, tu ne manges pas ?
Non, nous avons déjà mangé. Nous dînons tôt.
Et elle sort de la pièce.
Elle revient avec une soupière.
Avec des motifs à fleurs bleues. Le cerf.
Tiens, mange.
Et s'assoit à côté de lui.
Allez, mange.
C'est chaud et bon, malgré le manque de beurre. Il lui dit, c'est bon.
Ça n'a pas été trop dur.
Si, un peu. On travaillait beaucoup, comme des esclaves. Presque rien à manger. Tout à coup, ils ont entendu des clés dans la serrure.
Ce doit être ton père.
La porte s'est ouverte. Elle se lève pour sortir de la pièce. Benoît entend, elle lui dit,
il est là.
La porte s'est ouverte, Benoît se lève. Vient d'entrer son père, Scrap, Auguste, homme grand, sec, cheveux grisonnants, il a 45 ans.
Bonjour père.
Bonjour mon fils.
Benoît va vers son père et l'embrasse.
Je t'ai pas vu à la gare.
Je suis parti de suite. J'aime pas les cérémonies.
Tu as raison. Je trouve que des gens foutre. Tu mangeais? Alors continue.
Ils vont tous s'asseoir à table. Pendant que Benoît mange, son père lui dit
« Je sais ce que tu as enduré. Je t'en parlerai pas. Comme tu vois, nous aussi nous avons eu nos difficultés. Elles continuent. T'en aperçois. Mais enfin, nous parlerons de ceci demain. Tu dois être fatigué. »
Oui, père. Et j'aimerais me coucher.
Merci pour le repas.
Bien, mon fils.
Benoît se lève. Il se lève aussi. La tante lui dit,
ta chambre est prête.
Merci. Il les embrasse. Et sort de la pièce. Il retrouve sa chambre telle qu'il a quittée. Il se dit, c'est comme si la guerre n'avait pas existé. Pièce rectangulaire, pas très large, meubles, blé avec des meubles de récupération, un lit à une place, contre un mur, avec un couvre-lit rouge en laine, petite armoire sans âge, à une porte, une table de nuit, une vitrine avec des livres de prix, une chaise en paille, petite table qui sert de bureau, avec dessus des livres de Jules Verne. Malgré tout ce qu'il a vécu, il trouve ceci extrêmement triste et laid. On a frappé à la porte.
Oui ? Tu ne veux pas prendre un bain ?
C'est sa tante.
Non, merci, ma tante. Je suis trop fatiguée. Demain.
Bonne nuit.
Bonne nuit, ma tante.
Et il se déshabille. Une fois dans son lit, il n'arrive pas à dormir. Le lit est trop doux, trop chaud. Il se tourne, se retourne, couche sur les couvertures et décide de coucher sur le plancher. Puis, il s'est endormi. Le froid le réveille, il fait encore nuit, mais il n'a plus sommeil. Il décide de se lever. Il se souvient, ouvre le tiroir de la table de nuit. Retire une montre. Qui est restée dans le tiroir de la table de nuit durant tout ce temps. Il la prend et la remonte. Ne sait pas l'heure, mais ce doit être très tôt. 3h30, 4 heures. Levé comme là-bas. Il règle l'or à 3h30. Et comme il n'a plus sommeil, il va s'asseoir sur une chaise. Sur la chaise, plutôt. Il attend le jour, sans penser à rien. Tout semble comme avant. Comme avant. Il a l'impression que rien ne va changer. Il ira au conservatoire. Il veut être violoncelliste. Mais cela fait si longtemps qu'il n'a pas touché à un instrument. Ses professeurs disaient qu'il était bon musicien. Mais maintenant, le jour commence à se pointer. Il se dit que ce doit être 7 heures. Il a entendu des pas, une porte qui s'est ouverte. Des petits bruits dans la cuisine. Il se lève pour s'habiller. Il s'est habillé tranquillement, il est tout couverturé, il se lavera plus tard. Et une fois habillé, il sort de la chambre. Pour aller à la cuisine. Et retrouve à la cuisine sa tante. Après avoir pris leur petit déjeuner, le père et le fils sont à la boutique de la famille. C'est la mère qui la tenait, mais après sa mère, c'est le père et la tante qui s'en occupent. La femme d'Auguste est morte d'une grippe il y a de cela 10 ans. Le père est assis à la banque, le fils près de lui. Le père lui dit,
en ce moment, les affaires vont mal.
Elles vont mal pour tout le monde.
Oui, tu as raison. Mais pour certains, plus. Et puis, j'ai ma soeur à charge. Tu comprends? Je ne peux plus subvenir à tes besoins. Il va falloir que tu te débrouilles tout seul.
Merci. Tu parles d'un retour? Après toutes ces années, tu me mets à la porte?
Je ne te mets pas à la porte, mais il faudra que tu trouves un travail.
Je n'ai même pas le temps de souffler de toutes ces années de captivité. Et l'on m'envoie au travail. Après les Allemands, c'est les Français et ma famille qui m'envoient au travail. Et mes études?
Tes études. Qui pense à la musique à notre époque, alors que les gens n'ont pas de quoi se nourrir?
Benoît hausse les épaules
et sort de la boutique. Dehors, il fait froid et humide. Il ne veut pas retourner prendre un manteau. Il regarde bien sa rue. se dit, et c'est aussi triste que là-bas. Se dirige vers les quais de Saône. Là, il marche en broyant du noir. Peine arrivée et rejetée. S'avance vers lui un jeune homme d'à peu près son âge, grand, maigre, le visage osseux, avec de grands yeux bleus profonds, habillé d'un costume gris très grand et d'un pull blanc. En passant devant Benoît, il s'arrête et lui dit « Monsieur, attends Benoît ? Oui ? Je suis Jules Marcon, je te souviens le communal, tout près d'ici, rue du sergent Blandin. » Oui, bien sûr. Je lui demande. C'est vrai que tu as été, toi aussi, envoyé là-bas. Oui. Je suis rentré hier au soir et me trouve à la rue. Ou tout comme. Ah. Oui. Tiens, allons au café. Tu vas me raconter. Et Jules le mène à un café populaire. La pièce n'est pas très grande, on y voit à peine. À des tables, il y a des vieux qui boivent en lisant le journal ou jouent aux cartes. Lorsqu'ils sont entrés, ils ont tous regardé qui entrait et comme ils semblaient reconnaître Jules, ils ont repris leur occupation. Ils se sont assis à une table près de la fenêtre pour voir le jour. Le bistroquet, un gros à casquette et habillé bleu, est venu vers eux. Je l'ai dit, deux demi, et est allé chercher la commande. Je lui dis, alors raconte, bien mon vieux. Mon vieux m'a mis à la porte, ou presque, à peine arrivé. Les temps sont durs, il paraît. Mon pauvre vieux, va. Il se tait qu'un bistroquet apporte les deux demi. Une fois qu'il s'est éloigné, aussi, je quitte ma famille. Mais c'est pour le bon motif. Je me marie. Une jeune fille dont j'ai fait la connaissance avant la guerre. Nous avons attendu la fin pour nous marier. Pour moi aussi, ça ne va pas être facile, question de travail. Benoît lui dit, moi, c'est pas le travail. Je pourrais donner des leçons, mais le logement, je lui dis, pas de logement sans travail. Je pourrais donner des cours de violon. Je lui hausse les épaules et lui dis, les gens ne pensent pas à la musique en ce moment. Je travaille chez un laitier. Je fais des livraisons à domicile. Si tu veux, je peux en parler à mon patron. Oui, je veux bien. Merci. Et une semaine plus tard, il est embauché à la laiterie, qui est rue Bouteille, à côté de l'école. Toute la journée, avec un vélo et une carriole, il livre le lait, le fromage, le beurre aux gens du quartier. C'est très pénible, car il faut monter les étages à pied avec son bloc à lait. Une fois, il a eu sa première quinzaine, il a cherché un appartement ou une pièce pour se loger. Son copain Jules lui a refilé la sienne, car comme il se marie, il va habiter chez les beaux-parents qui ont une petite maison sur le bord du Rhône, vers Serfond. Benoît a un F1 que lui a loué Jules, numéro 5 de la rue Bouteille, à côté où il travaille. Il suit un passage d'un vieil immeuble. Au fond, il y a une cour, il y a un autre immeuble plus petit de 2 étages. Son appartement est au premier, porte droite. Petit couloir, séjour, cuisine, porte donnant dans chambre. Et à l'intérieur de la chambre, il y a une porte qui donne dans un salle d'eau, c'est-à-dire dans une pièce où il y a un lavabo. Les WC sont sur le palier. C'est pauvre. Le sol a du lino. Les murs sont sans tapisserie. Mais c'est du papier bon marché beige. Les meubles sont utilitaires 1930. Benoît est satisfait. Il a trouvé du travail et un logement de suite, ce qui prouve à son père qu'il sait se débrouiller. Bien sûr, il souhaite c'est que sa situation s'améliore pour qu'il puisse reprendre ses études. Son salaire est très bas, juste de quoi vivre, ce qui fait qu'il ne peut sortir et ou avoir la moindre distraction. Pas de bal, cinéma, musical, radio, phono. Il ne peut que lire des livres dans les bibliothèques municipales sans les prendre, car il ne peut pas payer une cotisation. Le temps passe. Le temps passe. Le 14 juillet, il fait très chaud. Il a fait très chaud toute la journée. Benoît, dans sa chambre, n'arrive pas à s'endormir. Alors, il est sorti. A entendu au loin le bruit d'un bal populaire. Ses pas lui ont dirigé. Il n'aime pas tellement ce genre de choses, mais il fait si chaud. Et puis, on ne sait jamais, on peut rencontrer quelqu'un. Le bal se trouve sur les quais de Saône. Un petit orchestre. Sur une escrade, une buvette. Benoît se met contre un arbre et regarde les danseurs. Tout à coup, il voit au milieu des danseurs une jeune fille, grande, mince, blonde, cheveux mi-longs, distinguée, habillée d'une robe blanche. Elle danse avec un jeune homme qui semble plus jeune qu'elle, mais il lui ressemble. Même cheveux, yeux bleus, un peu plus petit qu'elle, porte un costume d'été beige et une chemise blanche. Benoît se dit que ce doit être le frère et la sœur. Il est séduit par cette jeune fille qui semble si douce, si fine. Mais il ne lui dit rien. Il ne lui vient pas à l'idée de chercher à lui parler. Il reste plaqué contre son arbre dans la demi-obscurité. Le jeune couple, en dansant, s'approche de lui. Et en s'approchant de lui, se mettent eux à l'écart des autres. Tout à coup, sort de l'ombre un homme grand, mince, habillé d'un costume gris, qui passe devant Benoît sans le voir. S'arrête une seconde devant lui et fonce sur le couple. Prend par la chemise le jeune danseur et le fait tourner sur lui-même. La jeune fille, apeurée, pousse un cri. L'homme tient le jeune garçon au collet. D'un bond, Benoît fonce sur lui. Que se passe-t-il? Lâchez ce jeune homme. Toi, occupe de tes affaires. Lâchez ce jeune homme, je vous dis, de lâcher ce jeune homme. L'homme, tout en maintenant le jeune d'une main, par le cou, fait le geste de donner un coup de poing à Benoît, qui se recoule et lui donne un coup de poing dans le visage. L'homme grimace. Lâche ce jeune homme pour mettre les mains au visage. D'un geste brusque, Benoît prend les deux jeunes jambes
par la main et se sauve en courant.
Après 2 minutes de course effrénée et voyant qu'ils ne sont pas poursuivis par l'homme, ils arrêtent leur course. Ils se trouvent sur les quais un peu plus loin. Le quai est désert, il n'y a pas de lumière à part un petit réverbère. La jeune fille dit à Benoît :
« Merci, monsieur. »
Benoît lui demande :
« Qu'est-ce que voulait cet homme ?»
Elle lui répond :
« C'est mon frère, il a fait une dette de jeu. Qui ne peut payer, il ne veut pas en parler à père. »
Le jeune homme soupire et dit :
« Ça va, ça va lui raconter toute notre vie. »
Benoît gêné leur dit : « De toute façon, c'est l'homme qui est responsable. Et tant pis pour lui, il n'avait qu'à pas jouer avec un mineur. » Le jeune dit à sa sœur : «
Ah, tu vois ? »
La jeune fille dit : « Je m'appelle Elisabeth Dupin. Mon frère, c'est Frédéric.
Et moi, c'est Benoît Schraff. Que faisons-nous maintenant ?»
La jeune fille lui répond : «
Nous allons rentrer, il se fait tard.
Viens, je vous raccompagne. » «
Pas la peine, monsieur. » «
Oh, monsieur, Benoît, mon frère et sa sœur. Il vaut mieux qu'il nous raccompagne, si on tombe sur l'eau. » «
Vous allez chez où ? » «
Rue des Capucins. » Et ils y vont.
Benoît trouve la jeune fille très belle. Ils se jurent qu'ils deviendront amis.
Marche entre le frère et la sœur. Arrivé rue des Capucins, devant un immeuble triste, comme ils le sont tous dans cette rue. «
Je suis arrivé, monsieur. Je vous remercie. »
Benoît lui demande : « Si vous voulez, l'on peut se revoir ? » Elle lui sourit et lui dit : «
Merci. »
Ce n'est pas une réponse. Et elle va ouvrir la porte de son immeuble. Pousse son frère à l'intérieur, entre elle-même. Une fois que la porte s'est refermée, Benoît s'en est retourné chez lui. Il se sent triste malgré lui. Il se dit qu'il ne la verra plus, qu'elle ne souhaite pas le revoir. Arrivé chez lui, il s'est couché, l'âme en peine. Durant toute la nuit, il n'a fait que rêver à la jeune fille. Les jours passent.
il pense souvent à elle. N'ose pas passer devant chez elle de peur qu'elle le remarque et faire un détour pour éviter son immeuble. Il a peur que son patron lui dise de faire des livraisons dans son immeuble et qu'elle le rencontre. Quelle honte, lui livreur laitier. Malgré qu'il évite Elisabeth, il souffre de ne plus la revoir.
Les enfants qui s'aiment, ici même à Barbès Fraîche-Choir. Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit. Et les enfants.
C'est pour moi, hein, qui viens jouer.
Oui. Ça t'embête?
Non. C'est du quartier.
Je suis de Verviers.
C'est pas loin, Verviers.
Non. C'est tout près.
Et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit, excitant la rage des pensants.
Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles?
Oui, un sale boulot.
Tu veux un croissant?
Les enfants qui s'aiment ne sont là pour faire de leur premier
chaud. Il décide de se lever et de marcher un peu. Là, c'est pas le même. Tranquillement vers l'immeuble de la jeune fille. Il reste en face de son immeuble, sans bouger, le corps gros. Il ne peut plus bouger. Il est comme paralysé. Les minutes passent. Sans qu'il s'en rende compte, au bout d'un moment, une voix lui dit qu'il est amoureux. Amoureux, oui, amoureux pour la première fois. Souvent la nuit, il se lève pour aller vers l'immeuble de la jeune fille. Une nuit, il voit que débouche d'une rue transversale une jeune personne qui semble timidée. Avant qu'elle n'arrive à lui, il décide de se retirer. Mais juste au moment où il va le faire, il entend. « Je te connais, toi !» Il reconnaît la voix du frère de la jeune fille. Et tout près de lui, il voit que Frédéric est éméché et qu'il a des difficultés à se maintenir debout. Ses vêtements défaits et semblent. Il sourit et tombe à terre. Benoît se penche pour l'aider à se relever. Il voit qu'il le tient debout. Alors, il le maintient et décide de le ramener chez ses parents. Tant maintenant, il va rentrer dans l'allée.
C'est à quel étage ?
Troisième.
Ils y vont.
Après un moment, la porte s'ouvre.
Un homme grand, mince, à moustache et barbe blanche, habillé d'une robe de chambre bordeaux.
C'est toi, Frédéric ?
Benoît lui dit. Oui, je vous le ramène. Il est tombé dans la rue et avait des difficultés à se relever.
C'est vous, Benoît ?
C'est la voix d'Elisabeth qui vient de se faire entendre.
Oui, mademoiselle, je vous ramène votre frère. Papa, fais-le entrer.
Le père les laisse entrer et ferme la porte.
Elisabeth, en robe de chambre bleue, s'approche d'eux. Elle se penche vers son frère et lui dit
« Tu es insupportable !»
Le maintient et dit à Benoît
« Ils ont le mené dans sa chambre. »
Elle le guide à un couloir où se trouvent deux portes. Le père les suit. Elle va ouvrir celle de droite.
C'est une chambre de taille moyenne, avec un lit à une place, une armoire, table de nuit, meuble 1930. Nous allons l'allonger sur le lit.
D'une main, elle retire le lit, fait allonger Frédéric sur le lit, lui retire ses chaussures,
tu as de la chance que mère soit absente. Tu as besoin de quelque chose ?
Frédéric fait non de la tête. Elle se redresse et dit à Benoît : Venez, laissons-le se reposer.
Et ils sortent de la chambre.
Là, il retrouve le père.
Il est au lit ce garnement.
Oui, père.
Demain, nous verrons ce que nous allons faire de lui.
Puis regarde Benoît et lui dit
« Je vous remercie, monsieur. »
« Ce n'est rien, monsieur. Bonsoir, monsieur. » Elisabeth lui dit « Attendez, je vais vous accompagner. »
Le père lui dit
« Tu sors à 7h ?»«
Juste au coin de la rue. Attendez, je m'habille. »
Et elle court jusqu'à sa chambre.
Le père soupire et dit à Benoît
« Les jeunes ne tiennent plus en place depuis la libération. Ils ne pensent qu'à courir et à danser. »
Elisabeth est ressortie de la chambre avec une robe bleu pâle. Et ils sortent.
Il fait doux, mais on n'entend pas le moindre bruit, sauf celui de leurs pas sur le pavé. Elle lui demande « Vous avez trouvé mon frère ? » Il était dans la rue, il est venu à moi, a tout juste eu le temps de me reconnaître qu'il est tombé. Alors je vous l'ai raccompagné. Mon frère était insupportable, il ne passe que son temps à jouer dans les cafés. S'il continue, il finira mal. Vous aimez beaucoup votre frère, n'est-ce pas? Oui, et malgré ses bêtises. Mais je crois que ses bêtises me le font plus aimer. Elle me montre ses faiblesses, ce qui le rend encore plus attachant. Elle sourit. Il lui demande. Vous ne pouvez aimer que les hommes faibles? Elle sourit et lui dit. Non. Mais mon frère, c'est pas la même chose. Si je me marie un jour, je veux un homme qui soit fort et puisse m'épauler. Je dois vous quitter, car mon père risquerait de se faire du souci. Benoît, sans vraiment réfléchir, et heureusement car il n'aurait pas osé le lui demander. Nous nous reverrons, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Après ce qu'il a fait, n'ose pas lui dire non. Il lui demande. Quand? Elle réfléchit et lui dit. Samedi après-midi, devant l'entrée de la Martinière. Vous nous aiderez, mon frère et moi, à faire nos courses. Oui, je veux bien. Elle sourit et lui dit au revoir et à samedi. Et elle se sauve. Benoît est tout heureux.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Film intérieur dont c'était la première partie. Production, mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La série.